Lucien Gerfagnon est un historien formé par un expert du présent. Des livres que Vladimir Jankélévitch consacre à l'instant, au je ne sais quoi ou à la nostalgie, Gerfagnon retient l'idée qu'un paradis est toujours perdu. Mais du plaisir qu'il avait à discuter sans fin avec ce grand vivant, il conserve comme un impératif catégorique l'idée toute bête qu'on n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne vous a rien fait. Le premier texte de Jankélévitch était un mémoire de maîtrise consacré à Plotin. Les éditions du Cerf viennent de le publier avec une préface de Lucien Gerfagnon dans laquelle, sous l'égide de Bergson, il parle de la métaphysique comme étant paradoxalement la meilleure façon d'approfondir l'expérience. En réalité, Plotin, Bergson, Jankélévitch et Gerfagnon forment un quatuor. Ce sont les ancêtres et les héritiers d'une tribu de philosophes que l'abstraction rapproche du monde au lieu d'en éloigner. Jankélévitch et Gerfagnon, l'élève et le maître, côte à côte, dans l'ordre alphabétique de l'histoire des idées, appartiennent au cercle très ouvert des penseurs qui se contentent de ne pas trouver ce qu'ils cherchent et de ne jamais chercher ce qu'ils sont certains de trouver. Entre l'apprenti philosophe qu'aucun dogmatisme n'avait contaminé et le libre penseur qui riait de tout, y compris des catéchumènes prolétariens, ce fut un coup de foudre réciproque. Ces deux électrons libres au temps des groupuscules avaient beaucoup à se dire et se comprenaient à demi-mot. Ainsi, l'antiquisant Gerfagnon apprenait-il chez cette espèce de Socrate qu'était Jankélévitch, ce descendant spirituel de Plotin, l'art de n'avoir pas réponse à tout, de parler du sérieux avec humour, et de se méfier, surtout, des geôliers qui détiennent la vérité au péril de la modestie.
Vladimir Jankélévitch, voyez, pour moi, il est pas mort. Pour moi, c'est un air qui se donne. Il est toujours parmi nous, et je ne suis pas le seul. Nous téléphonons assez souvent avec un de mes complices qui a été comme moi assistant ou chargé de cours de Jankélévitch à un moment donné à la Sorbonne, Pierre Trottignon, qui lui-même a écrit pas mal de choses. Et alors quelquefois notre jankélévitchisme ressort parce que il nous arrive, n'est-ce pas, d'imiter son débit. Et puis nous mettons à rigoler, mais si nous rigolons, c'est parce que il est toujours là, il est toujours présent, et que lui-même aimait bien rire, même rire de lui-même à l'occasion. Et il s'en faisait pas faute.
Comment l'avez-vous rencontré?
Oh, d'une façon toute, j'allais dire, mais là encore, ma pauvre grand-mère dirait toute bête, j'avais un sujet de thèse en tête, la banalité. Je me disais, c'est curieux, on dit tout le temps, c'est banal, ça revient 36 000 fois. Et puis, en fouillant un peu là-dedans, je m'étais dit, mais sapristi, il y aurait quelque chose à dire de bergsonien, puisque on dit toujours Jankè entre nous, Jankélévitch était bergsonien, moi j'étais un peu bergsonien aussi fatalement, on aimait Plotin tous autant qu'on était là, et puis je me disais, oh, il y aurait quelque chose à dire sur la durée unique que nous faisons durer, la nôtre, qui est un absolu d'unicité, nous, et puis cette durée qui nous entoure et que nous faisons vivre aussi, que j'ai appelé la co-durée, la durée commune. Et on baigne là-dedans, on respire l'air du temps, on souscrit ou on souscrit pas au politiquement correct, au religieusement correct, ou tout ce que vous voulez. Enfin, ça. Et puis, j'avais présenté ça à Jankélévitch, et puis il m'avait dit, c'est une bonne idée. Et puis alors tout d'un coup il avait pris un air un peu sévère. Je me demande comment j'y ai pas songé moi-même. Et du coup là j'ai su que mon sujet de thèse était sauvé. Et bien pendant quatre années de ma vie, quatre années et demie, j'ai travaillé là-dessus au CNRS et puis j'ai
produit sur la banalité,
ce qui m'a fait un bouquin de 575 pages bien serré chez Evrin sous une couverture, la couverture funèbre, n'est-ce pas, funéraire de l'époque, et tout au long. Nous sommes rencontrés bien des fois avec Jankélévitch.
Il y avait quelque chose chez Jankélévitch de ce que Baudelaire décrit dans Le peintre de la vie moderne, cette façon qu'a le poète ou le flâneur d'enchanter le monde, de faire de l'or avec de la boue, avec la boue du quotidien. Il avait cette façon de transcender la banalité. La banalité n'était jamais banale.
Voilà. Et tout ça, sans en avoir l'air. Jamais Jean Kalevitch ne faisait de manière. Il était toujours lui-même, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ou rigolard ou furieux, mais toujours lui-même, paisiblement et sans chercher à être à paraître, à être autre chose. Il avait un sens, une acuité de dérision qu'il s'appliquait à lui-même, qu'il appliquait à ce qu'il était en train de faire. Et qu'il appliquait, il n'hésitait pas à appliquer aux autres. C'est ainsi, par exemple, que pour me conforter dans mon travail de thèse, regardant ma serviette, il me dit, ce sera, eh bien, monsieur Gerfalion, ce sera une grande thèse. D'abord, écoutez, vous avez déjà une grande serviette. Je savais que nous ne nous prendrions pas au sérieux ni l'un ni l'autre dans l'acte de diriger pour lui ou de faire, pour moi, une thèse. C'était quelque chose qui n'avait rien de pontifical. Et il avait un grand sens de la liberté. Il voulait que le type qui travaillait pour lui sorte de son propre fond, non pas du Jean Kalevitch, mais sorte du Tartemol ou du Tartempion.
Oui, vous parlez de Tartemol parce que dans votre histoire de la philosophie, oui. Vous avez un personnage qui revient souvent, qui est Jean Tartemol, qui au moyen d'ailleurs que vous médiévisez, si j'ose dire, au Moyen Âge, puisqu'il devient Jehan Tartemol.
Oui, Sire Jehan Tartemol.
Qui est ce Jean Tartemol, Lucien Jaffanier?
C'est un personnage commode. C'est un pur concept signifie l'individualité. Plutôt que de parler en ennuyant tout le monde, et c'est un autre terme qui me venait à l'esprit, au lieu d'ennuyer tout le monde de façon en parlant de choses concrètes de façon abstraite, comme si souvent dans les bouquins dits de philosophie, dans les manuels et dans tout ça, qui vous décourage à jamais de faire de la philosophie, eh bien, j'avais essayé d'évoquer une individualité avec un nom idiot dont on parle quelquefois, on dit, bah, j'ai vu Tartempion ou Tartemol, j'ai dit que Tartemol c'était pas mal, alors du coup, Tartemol me permettait d'expliquer toutes les catégories d'Aristote, par exemple, qui sont à mourir de rire, comme chacun sait, d'expliquer la matière et la forme, d'expliquer la substance et l'accident, la substance Tartemol,
accidentellement se retrouve en pyjama, dites-vous.
C'est ça, et c'est un accident. Hein. Et quod accidit, disent les scolastiques, et alors, au Moyen-Âge, bah, bien sûr, il devient fatalement... Messire Jehan Tartemol. Ça aurait bien été une feinte aussi à la Jean Kalevitch.
Vous citez Jean Kalevitch dans Les dieux ne sont jamais loin, vous avez consacré un livre à Jean Kalevitch, mais dans Les dieux ne sont jamais loin, vous dites, en fait vous ne le citez pas, mais vous le reprenez à votre compte, vous dites cette phrase, vous dites, on n'a jamais besoin d'autant de mots que pour suggérer l'ineffable. Nous sommes ainsi faits qu'il nous faut beaucoup parler pour inviter au silence.
Oui.
Ce qui rappelle Jean Kalevitch.
C'était quelque chose qui me venait à l'esprit. Je savais qu'il avait dit quelque chose qui était proche de ça, mais je ne sais pas une citation. Je ne lui ai pas piqué, si vous voulez. Ça finit par me hanter tant et si bien que ce qu'a dit Jean Kalevitch, quelquefois c'est un peu comme ce qu'a dit. Ça l'amuserait que je dise ça. Ce qu'a dit Jésus, qui m'en vient à l'esprit, vous voyez, où le Seigneur a dit. Et je cite une parole de Jean Kalevitch comme on cite un verset de la Bible. Non pas que je m'y sois inféodé. Il aurait été fou furieux.
Et vous l'avez repris à votre compte.
Oui, mais il savait que je pouvais pas m'inféoder à lui parce que il me connaissait. Et il savait que j'avais pas le goût de la féodation, et lui il avait moins que personne le goût d'avoir d'engendrer des clones. Il avait cette générosité qui est celle de l'un, par parenthèse. C'était
l'un plotinien, vous voulez dire.
Mais oui, c'est celle de l'un plotinien
qui donne par surabondance.
Il donnait par surabondance, et il vous donnait de quoi devenir. Ben écoutez, Plotin m'a donné de quoi devenir Gerfagnon. Vous me direz que ça va pas chercher loin, mais et Jean Kalevitch m'a perfectionné également ce moyen de devenir le Gerfagnon en question, hein, qui fait ce qu'il peut et sans plus. Hein. Nul ne doit souffler plus haut qu'il n'a l'esprit, si j'ose ainsi m'exprimer de façon claire et distincte.
Nietzsche disait « Il m'est odieux de suivre autant que de guider ». Est-ce que cette phrase s'applique à Jean Kelevitch ?
Oui, il ne suivait pas, il ne guidait pas. Pas plus d'ailleurs que Bergson, par parenthèse. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Bergson ait été pour Jean Kelevitch ce qu'on entend habituellement par maître. C'était un inspirateur, il ne guidait pas, il vous suggérait l'envie de peut-être d'aller dans cette direction-là, parce que déjà chez Bergson, il trouvait la même chose. Ce ne sont pas des dogmatiques, ni l'un ni l'autre ne sont des dogmatiques. Je pense à une parole de Bergson, à quelqu'un qui a un ballot qui lui avait demandé, un quelconque Tartemol qui lui avait demandé quelle sera la prochaine philosophie. Et Bergson lui avait répondu, ben écoutez, si je le savais, je la ferais.
Jean Kelevitch dit que la curiosité s'oppose à la sympathie comme l'amateur à l'amant. Et il dit, si vous m'aimez, alors vous n'êtes pas curieux de moi. Et il dit même, c'est dans quelque part dans l'inachevé, que il rêve de rapports humains où deux êtres qui s'aimeraient tellement qu'ils renonceraient à se connaître l'un l'autre.
Chez lui, il n'y avait pas, on aurait cherché vainement, le regard sur lui-même. C'est toujours un regard sur la durée, sur ce qui dure. Et un regard en même temps, voilà, on ne s'arrête jamais. À partir du moment où on s'arrête, on devient idiot, ça devient stupide. Supposez qu'ayant fait beaucoup de physique, si vous avez une question de longueur d'onde, vous arrivez à de la métaphysique et vous vous en tenez là, eh bien, c'est fini. La philosophie est terminée, vous pouvez rentrer chez vous, faites autre chose, si possible. Prenez un roman.
C'est-à-dire
policier,
le moment où la philosophie se fige en vérité.
Elle se fige en vérité ou quelque chose qui voudrait bien être tel ou qui prétend être tel, en problème résolu. Voilà. Un problème résolu. Or, un problème qui est résolu, ça n'a pas un énorme intérêt, d'autant que encore quelques années, ça sera résolu autrement.
Comment concilier cette façon de voir, cette façon de vivre, et le fait d'écrire abondamment comme lui pouvait le faire, même s'il disait qu'il était davantage un homme de l'oral, ou comme vous pouvez le faire?
En flanquant par dans au panier beaucoup de choses de ce qu'il écrit, en ne se prenant jamais trop au sérieux, en essayant de faire de l'esthétique, ça vous détourne un peu de soi. Je crois que quelque chose qui fait beaucoup de bien, c'est d'essayer d'écrire de telle manière que les gens aient un moment, sinon de plaisir, mais au moins un moment d'intérêt. On se met à penser aux autres en disant « Non, si je dis ça, je vais les ennuyer, disons. Il faudrait que je trouve cette idée-là. Ça va, moi, je crois à cette idée-là, mais il faudrait que j'en donne envie. » Et du coup, c'est plus à soi qu'on pense, mais on pense aux autres en train de vous lire, et souvent pour des choses qui n'ont rien de bien rigolo. Et on se dit si on pouvait, un peu comme un acteur, c'était Louis de Funès qui disait une fois, qui était très 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 chrétien, qui disait à un prêtre qui l'avait répété, c'est tellement bon de penser que je peux donner un moment de joie à un enfant en me regardant faire des pitreries. Là c'est quelque chose de, si vous voulez, de plus sérieux, mais au sens Jean Kelevitchien du terme. On s'oublie soi-même en écrivant, parce que on pense aux autres, on pense à l'impact que ça aura sur les autres, on veut pas leur faire plus de mal que de bien. Et en philosophie, c'est sacrément facile de faire plus de mal que de bien. Vous pouvez perturber les consciences. J'ai dans la tête quelqu'un même qui s'est fichu en l'air à la suite d'un cours de philosophie. C'était pas le mien encore. Quelqu'un qui n'a pas pu supporter telle révélation qui supposait qui venait de lui être faite et qui s'est flanqué par la fenêtre quelque chose de ce genre. Hein, et c'était pas comme Cléon Brotus dans Brassy pour arriver plutôt à l'immortalité. C'est parce que ce qu'il avait entendu.
Il s'est suicidé donc après avoir lu le Phédon
après,
de travers.
Après, oui, après avoir lu le Phédon de travers, il s'est fiché par la fenêtre puisqu'il disait puisque l'immortalité est promise, je pense que je fous sur terre. Et il s'était fiché par la tête. Et bien souvent, malheureusement, quand les gens font de l'histoire de la philo, ils l'expliquent aux étudiants de telle manière que les gens sont tout contents d'arriver au mois de juin et d'avoir les examens et qu'après, on n'en parle plus.
Je vous lis à la fin de votre introduction en forme de tour d'horizon du livre que vous intitulez « Des dieux et des mots ». Vous dites « Tout ce que je puis faire, c'est de raconter, d'exposer sous les yeux du lecteur les 20 premiers siècles d'une aventure, donc l'histoire de la philosophie, à laquelle il lui revient si le cœur lui en dit de découvrir un sens. » Très bien. Et la dernière phrase de votre introduction, c'est « Et si, chemin faisant, lui venait quelques sentiments de complicité, l'idée ne m'en déplairait point. »
Je vais vous dire quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est qu'un jour, un de mes lecteurs helvètes m'avait avoué donner du Gerfagnon à des élèves, à des étudiants comme sujet d'examen. Et alors là, j'ai eu une sorte de sueur froide. Je me suis dit, de deux choses l'une, je voyais ces malheureux types suçant la branche de leurs lunettes.
Faire le commentaire de Jean Tartemolle.
Voilà, exactement. Le Gerfagnon a dit que, etc., comme Sainte-Beuve, vous savez. Mais alors, suçotant sa branche de lunettes et disant, oui, ben, il avait bien besoin de dire ça, ce vieux, ici, un moreiller nul. Ou bien, oh, chouette, il a sorti ça. Voyez, dans les deux cas, ça me gênait un peu. Vous savez, il en va de la filiation philosophique comme de la filiation selon la chair. Comment dirait-on ça, selon la chair, à tout moment, je ne songe pas à rééditer mon pauvre père, le mathématicien, physicien, j'en oublie, pas plus que lui ne songeait à reproduire à chaque instant son vigneron de papa, etc. Mais il ne lui était pas indifférent d'être le fils de ce vigneron, et moi il ne m'est pas indifférent, bien que je sois nul en physique et en maths, d'être le fils de ce physicien. Peut-être que j'aurais sûrement été autre, pas seulement par figure, mais si j'étais né d'un autre, ça serait même la question stupide qu'on pourrait se poser, parce que quelle gueule j'aurais si j'étais né de là. Voilà, ça serait ça, si vous voulez, à se poser à soi-même. Mais quelquefois, quand on est gamin, on se pose ça. Et alors là, je me demande si en philo, ça serait pas un peu pareil de qui je sors. Je sors de tellement de gens, de toute une génération, une tribu. Je suis de la tribu des philosophes, et donc je suis de tous. On peut pas dire d'aucun, mais de tous à la fois, qui m'ont fait être sur tel point, fait être autrement sur tel autre, et sans eux. Sans eux, je serais peut-être rien du tout. J'aurais rien pensé du tout qui puisse aller au-delà de me demander à quelle heure part le train ou bien qu'est-ce que je pourrais manger ce soir. Si on mangeait des petits pois. Enfin, vous voyez, il y a là une présence de l'absolu. Et Jean Kedewicz était toujours précisément à courir après le. Un absolu qui savait parfaitement ne jamais trouver. Mais ce qui était merveilleux chez lui, c'était sa dérision. Il avait justement pour qu'on ne s'arrête pas, pour qu'on ne se pose pas son derrière définitivement. Par exemple, dans le grand fauteuil des théologiens, il parlait de Dieu d'une manière qui enfin, qui était à mourir de rire, n'est-ce pas, à propos de tout ce qu'a raconté Théologien. Il disait, je cite ça de mémoire, mais je peux vous retrouver dans 3 minutes la citation. Autant se demander si Dieu est brun ou blond. Une histoire comme ça.
Alors il disait aussi quand Jacques Chancel lui demande s'il porte sur son passé un bon regard, il répond qu'il ne regarde pas du tout son passé, ça l'intéresse pas du tout. Il dit ce serait comme Dieu au 7e jour, une fois le boulot terminé, qui se retourne sur sa création et dit comme c'est bien ce que j'ai fait.
Oui, ce qui prouverait d'ailleurs que le problème du mal n'aurait pas gêné l'Éternel. Ce qui était déjà ça, ou bien quand il parle du diable aussi, à quoi mourir de rire, il parle du diable, parce que c'est tellement juste quand il dit que le diable est indispensable, c'est extraordinaire, Satan est un gentleman, n'est-ce pas, parce qu'il permet de se défausser sur lui de toutes les saloperies que nous commettons, en disant c'est pas moi, c'est lui, et c'était dans pratique ça, d'avoir le diable sous la main, j'ose pas dire si, mais comme j'y crois pas, mais s'il n'existait pas, faudrait l'inventer. Mais enfin, ce serait dans ce sens-là que j'irais. Cette dérision, j'ai vu rire la philosophie avec lui. Et rire, non pas pour se foutre de l'objet de la philosophie, mais pour se foutre un peu de ceux qui en remettent une louche, qui l'arrête à un moment donné, qui disent « Oh, regardez comme c'est beau, la philosophie, d'abord, preuve, c'est que j'en fais, puis regardez ce que je fais, comme c'est beau, cieux, écoutez ma voix. Hein? » Alors là, ça vous guette une séance de Jean Kelevitch, et à vrai dire, un bon morceau de vie de Jean Kelevitch, puisque nous ne nous sommes plus guère quittés. Il m'a invité à des jurys de thèse, etc. On déjeunait quelquefois avec sa femme, sa fille à la maison, enfin nous-mêmes aussi. On ne s'est plus jamais quitté. Et j'avais l'impression que la philosophie riait. Cette philosophie qui est pontifiée par certains, m'agaçait. Ça me plaisait pas, même s'il y avait du fond là-dedans, s'il y avait des choses qui m'intéressaient, mais enfin la façon de le dire, est-ce que là la philosophie s'était mise à rire et j'étais heureux.